Ryan Reynolds here from Mint Mobile.
With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Bienvenue sur le podcast du raisin et des papilles, le podcast qui vous parle du vin et de l'art de vivre en Alsace. Le bon vin, celui que tu bois avec tes copains, celui qui te donne des émotions. Vous aurez aussi nos coups de gueule et nos coups de cœur.
Ouh là là.
On va faire le trou normand, le calvadis sous les graisses, l'estomac creuse et il n'y a plus qu'à continuer.
Ah bon ?
Voilà, messieurs.
Oui. Mais comment on boit ça ?
Du sec.
Allez.
Moi c'est Mika, bienvenue dans cet épisode de Raisin et des Papilles.
Bienvenue dans le podcast de Raisin et des Papilles. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas parlé, je crois que ça fait... Oula, le dernier enregistrement que j'ai fait, c'était les funambules à Merchuir, c'était la série de l'été. Entre temps, c'est vrai qu'on a eu la chasse au trésor, alors je vous en ai pas encore parlé de la chasse au trésor, mais j'attends que les gagnants rentrent de la Réunion pour qu'on puisse en parler. C'était le 9 juillet, on a passé une agréable journée, une belle journée festive. Tout ce que le vin doit apporter, on avait un peu d'eau aussi, vu la chaleur. On a bu un peu de bière aussi, d'ailleurs. Mais c'était génial parce que les gens étaient contents. On a fait gagner des étudiants, j'étais heureux de faire gagner des étudiants. Vous imaginez qu'ils étaient contents, 56 bouteilles de vin, rien que pour eux, c'était magnifique. Ils ont appelé les parents pour qu'ils viennent les chercher, parce qu'en train, je pense qu'ils auraient un petit peu galéré. C'était génial, on va refaire. 7 juillet 2024, on aura le trésor des libres buveurs numéro 2. Mais j'ai un souhait, et je vais lancer tout de suite l'appel pour la saison 2, c'est que j'aimerais bien qu'on mélange bière et vin. D'ailleurs, si on parle de bière, vous savez que c'est l'une de mes grandes passions, après le vin, et qu'on en a fait quelques-unes. On m'a souvent reproché de ne pas faire assez de bière, c'est vrai. Mais j'estime que le vin était déjà assez important, alors j'ai décidé de redevenir un apprenti buveur de bière. C'est pour ça qu'on commence, j'ai repris mon bâton pèlerin, j'ai pris mon train, parce que je dis toujours que les plus belles histoires d'amour se passent après, avant et pendant un voyage de train. En plus, quand tu bois, c'est toujours mieux que de prendre le train, parce que rien n'est plus important que notre vie, n'est-ce pas ? Donc, je me suis rendu dans la ville de Colmar. Colmar qui a 3 grandes brasseries. Alors, je parle de brasseries artisanales, micro-brasseries. Est-ce qu'elles sont encore toutes micro-brasseries ? Ça, c'est une autre question. Mais je me suis rendu dans une brasserie que je leur cours après depuis longtemps. On n'a jamais réussi à se voir. Et au dernier événement bière à Strasbourg, j'ai dit « Bon, je viens avec l'agenda et on en parle. » On a fixé une date. Et je me retrouve en face de JC et de Luc. Et nous sommes au... J'ai failli dire au domaine. Mais non, ce n'est pas un domaine. Mais souvent, on parle de maison. Moi, j'ai envie de parler de maison parce qu'une maison, c'est un endroit où on se sent bien, on se sent en famille. Et j'ai en face de moi des jeunes qui viennent, ça grouille depuis que je suis arrivé.
Tu n'es pas jeune, toi ?
Bah si, je suis un éternel jeune. Tu vois. Après 40 ans, chaque fois qu'on te demande ton anniversaire, je dis que j'ai 20 ans. Bah, vous de me prouver que je n'ai pas 20 ans. Voilà.
Tu l'as bien.
Voilà. Non, vous l'aurez deviné ou peut-être pas, mais je suis à la brasserie du Grillen à Colmar. Je suis en face de JC. Salut JC.
Salut.
Salut Luc.
Salut.
Comment vous allez bien ?
Ça va plutôt bien. Belle journée. Bientôt le week-end. De la bière, du soleil. Pour moi, ça va.
Les gens sont contents. Et toi, comment tu vas ?
Moi, ça va. Écoute, demain, je suis en vacances.
Alors, parle juste comme mange une glace. Voilà. Mange une glace.
Je mange pas autre chose, ça va.
C'est un peu... Ah, ça commence tout de suite. Il commence les hostilités, c'est parti.
Et il a même... Ici, on est sérieux.
Et il a même pas un verre à la main, encore.
Ah, ça va, non, je suis bientôt en vacances, donc ça
Ils sont très forts. Tu pars un petit peu ?
Ouais. Non, okay. En Italie, Tirol.
Oh.
Ouais, Tirol italien.
Bien, et
on l'air prêt.
Il y a un peu de brasserie artisanale
J'ai pas eu le temps de
regarder. Après, si tu veux, si vous adresses de vignerons, tu vas sur l'application Raisin, tu as tout ce que tu veux. Oh. Mais aujourd'hui, on ne parle pas de vin, quoique Et quoique, parce que je crois que vous avez tous un peu un passé aussi avec le vin, pas que la bière. Donc je vous propose qu'on fait comme d'habitude, on fait un petit peu votre carte de visite. Ensuite, on passe à la dégustation. Enfin, pendant aussi, hein, parce que c'est toujours bien, parce qu'on invite la gorge sèche. Et puis après, on finira sur des questions un petit peu plus piquantes.
On va chercher Thibaut.
T'inquiète. Ah oui, c'est vrai que Thibaut n'est pas
là. Là, il était en livraison, mais il est rentré.
Bah, j'y sais, on commence par toi.
Allons-y.
Est-ce que tu peux me faire ta petite carte de visite, qui tu es, ton passé un petit peu, avant de, justement, Grillen n'existe pas encore. Qui es-tu ?
Bah, du coup, donc, moi, je suis originaire d'Aiguissem, donc un petit village viticole à côté de Colmar. J'ai fait des études dans le vin et commerce, et ensuite j'ai travaillé une dizaine d'années dans le milieu viticole, pas mal voyagé aussi pendant tout ce temps, brasseur amateur également depuis je sais pas, 2013-2014, et donc voilà, très attiré par le monde de la gastronomie, de la dégustation. Copain depuis toujours avec Luc et Thibaut, et puis voilà, donc on a tous fait notre petit chemin entre les études, entre le travail pendant une dizaine d'années. On se retrouvait chaque année pour discuter ensemble, pour boire des canons, pour partager un peu nos expériences. Et puis bon, est arrivé un peu une petite crise de la trentaine, si on peut dire, tous les trois, un petit peu marre de bosser un peu pour dans nos secteurs, envie de bouger un petit peu, et on s'était dit pourquoi pas monter une microbrasserie tous les trois ensemble. Ouais. Et donc voilà, c'est de là qu'est venue un peu l'expérience de la brasserie du Grillen, quoi. Enfin, la création de la brasserie du Grillen en fin 2017, début 2018. On s'est dit allez, on se lance, on monte le projet pour une ouverture en 2019. Et puis, et puis voilà, aujourd'hui, on est passé du côté viticole au côté brassicole.
Mais tu as travaillé pour quel domaine ?
Alors moi j'ai travaillé...
Ou dans la région plutôt ?
J'ai travaillé d'abord du côté de Perpignan, en Bagnoul-sur-Mer, pour un vigneron, c'est Pierre Gaillard.
T'avais besoin de soleil, c'est pour ça.
Exactement.
Et qui sait que
de exactement, mais un peu de soleil, un peu de mer, pendant 2 ans. Et puis ensuite, je suis revenu en Alsace pour bosser pendant 8 ans chez Wolberger, petite structure alsacienne.
Ouais, c'est ça.
Et donc, ponctué aussi par 2 voyages à travers le globe, un peu sur tous les continents, avec toujours du travail en extra dans le milieu viticole, dans les vignes, en cave, et puis voilà, donc toujours en lien avec le vin, quoi.
Et comment on passe du vin à la bière ?
Je pense que les deux milieux sont assez proches, dans le sens c'est le côté partage, le côté création de produits, hein, que ce soit vinification ou alors que ce soit recette de bière. Et donc en fait c'était beaucoup plus simple en tant qu'amateur de commencer à faire de la bière à la maison que faire du vin à la maison. Et puis après aussi beaucoup plus simple de monter une structure brassicole qu'une structure viticole. Et je pense qu'aujourd'hui, ce qui nous plaît beaucoup dans ce milieu brassicole, c'est le fait de pouvoir sans cesse faire de nouvelles recettes, de nouveaux styles de bière, de ne pas être trop bridé avec tout ce qui est AOC, région viticole, tout ce qui est réglementation viticole qui bride beaucoup, en fait, la créativité. Donc c'est vrai que dans la bière, aujourd'hui, on arrive à s'éclater beaucoup plus. Et en plus, comme on aime beaucoup le vin et la bière, on arrive aussi à mêler les deux ensemble, ce qui est pour le coup extra, quoi.
Alors en fait moi j'ai pas forcément travaillé dans le vin, moi j'ai travaillé 10 ans dans l'industrie brassicole en fait.
Ok.
Donc pour un grand groupe, leader mondial quoi, AB InBev. Mais après j'ai quand même des racines dans le vin parce que mes parents sont coopérateurs.
D'accord.
Et mon frère est coopérateur, donc la vigne je connais.
Ok.
Aussi. Voilà, après sinon moi j'ai comme je sais, comme Thibaut, via Bourlingui aussi, j'ai travaillé donc au Luxembourg, j'ai fait mes études au Canada, Angleterre, et je parle Bourlingui aussi. En France
quoi, en Monsieur Thibaut, bonjour, comment va ? En forme ? Ça fait longtemps ?
Ça va bien, merci toi.
Salut Thibaut.
C'est très érotique tout ça.
Mais j'aime bien quand c'est érotique. C'est le code rouge.
Pas de problème, ouais. Ouais, carrément. Bah écoute, moi en fait, j'ai un parcours. Je viens du vin.
Ouais.
Voilà. On a fait des études plutôt dans le commerce du vin.
Ouais.
Avec des expériences liées directement avec de la vente caveau, un peu caviste aussi. Et puis après, je me suis orienté plus sur le côté un peu international de la chose. Mais donc là, j'ai un peu décroché avec le virage du vin. Je suis allé vendre en fait de la verrerie, en fait, de la verrerie française. Une marque rémoise qui s'appelle Lehmann Glass. Et du coup, je suis parti là-bas en VIE pendant 18 mois en Californie pour donc développer la marque sur Napa, Sonoma, et un peu la baie de San Francisco, tout le coin là-bas. C'était plutôt cool, une très belle expérience dans une belle région. Du coup, après, je suis rentré, j'ai continué au sein de cette verrerie. Et il y a eu une autre bifurcation. Donc j'ai bossé en fait dans les spiritueux,
ouais.
Donc dans la distribution de spiritueux premium en fait, donc
ouais.
Pour la maison Duga,
ouais.
Qui travaille notamment avec les cavistes,
ouais.
Les cavistes français quoi. Et du coup j'étais sur la région Grand Est plus quoi. Et sur la route, avoir les cavistes. Donc, super métier, mais très prenant, avec beaucoup d'animations, de conférences sur le whisky, les rhums, vraiment un accompagnement des cavistes. C'est assez prenant, quoi. Mais donc, du coup, vie de famille un peu compliquée, quoi.
Ouais.
Tu pars du mardi au
samedi, quoi.
Soir inclus, ouais. Quoi. Donc, métier passion, plutôt cool. Mais l'envie d'autres choses, l'opportunité de faire la brasserie du Grienne, ouais, c'était carrément cool, quoi, vu qu'on brassait un peu en amateur ensemble et on s'était dit qu'on avait tous les compétences
complémentaires,
on peut dire ça comme ça. Donc le choix s'est fait assez naturellement, quoi, sur un coup de tête, quoi. Je sais pas si on a déjà raconté un peu.
Enfin, encore.
On va
en parler là.
Voilà un petit peu, donc plus un profil un peu commercial. Ouais. L'histoire de la brasserie du Grienne, en fait, elle est simple, quoi. On était chacun dans nos...
Alors, nous sommes en septembre 2019, c'est ça ?
Ça, c'est l'ouverture.
C'est l'ouverture. Bien avant. Donc, vous êtes tous retrouvés, tous les trois, à un moment donné, vous êtes retrouvés après vos
chaque année, en fait, on était tous les trois un peu éparpillés.
Ouais.
Luc travaillait au Luxembourg.
Il y a un jour, lequel s'est dit, il y en a marre. Toi, t'en avais marre de ton boulot, toi aussi. Toi, visiblement, t'étais pas loin d'en avoir marre. Toi, tu voulais une vie de famille. Visiblement, ça te manquait, enfin, d'être proche. Puis vous avanciez, vous avez vos gosses.
Les trois, c'était le même.
Et à un moment donné, vous êtes dit, bon, les gars.
Non, en fait, c'est vraiment. On s'est retrouvés, en fait, dans un petit restaurant qui s'appelait le Cézanne, en fait, à Colmar.
Mon cousin, Pierre Broger,
en fait, casse. C'est ça, exactement. Pierre, qui était.
Aussi, maintenant. Hein.
Il est vigneron, maintenant, effectivement. Il a créé son micro-domaine.
C'est très bon. C'est très bon. Il est un peu. Mais il est un peu perché.
Ouais, ça,
mais j'adore les gens. Ouais, Quand j'utilise le mot perché, c'est toujours. Je déteste les gens lisses.
C'est en étant ultra positif. Voilà,
j'adore la folie. Il n'y a rien de plus qu'une belle folie, quoi. Mince.
Il va jusqu'au bout, en fait.
Les gens lisses m'emmerdent.
Et du coup, on était dans ce restaurant-là qui gérait à l'époque et on a tous mangé ensemble. C'était fin d'année. On avait un petit coup dans le nez, bien dans la musette, dans le nez. Et je sais pas, il y en a un qui dit comme ça pourquoi pas créer une microbrasserie. Et lui, il passe à côté, il nous entend, il fait mais les gars. Oui, il y a de la place ici à Colmar, alors vas-y, faites-le, quoi.
Et il avait déjà goûté nos bières qu'on brassait à la maison.
C'est ça.
Il disait que ça tenait la route, quoi.
C'est ça.
Ouais. Donc, du coup, vous avez déjà goûté vos bières ?
Artisanal, ouais.
Oui.
Maison.
Okay. Amateur, ouais.
Amateur.
Old brewing.
C'est ça.
Donc, vous êtes... Donc, celle-là, on disait quoi, en 2018 ?
C'était décembre 2017.
2017, ouais.
Décembre 17, ouais.
J'ai l'impression que le mois de décembre, je crois que les altruistes aussi avaient commencé au mois de décembre. C'est quoi ? C'est l'effet de Noël ? Vous commencez
En fait, c'est là où tout le monde est
Il
n'y
avait pas un endroit qui... Vous étiez aussi avec un Ralph, non, en décembre ? Parce qu'il y a une guerre... je me dis, il y a peut-être une histoire aussi.
Tu sais, quand tu n'es pas chef d'entreprise et quand tu n'es pas brasseur, en fait, c'est la période où tu te retrouves en famille et tu fais rien. Maintenant, autant te dire qu'en décembre, maintenant...
On se voit plus bien en décembre.
Mois de décembre est toujours compliqué.
C'est sportif,
mais sur les rotules, généralement.
On perd 10 kilos. à 3.
Surtout qu'on commençait tôt à penser à Noël, puisque la bière de Noël, il faut bien la préparer à un moment donné.
La semaine prochaine, elle est dans la cuve.
Voilà, donc tu ne peux pas commencer le 1er décembre en disant... donc, t'es dedans. Ok, donc, vous êtes retrouvés. Vous avez commencé par combien de bières? Vous vous rappelez?
Alors, la gamme classique.
C'était 4 bières.
C'était 4 bières, ouais. Liberté, Cyrus, Mosaïque et Indy. Ça, c'était la gamme de base. C'était vraiment ce qu'on voulait proposer en permanent et au grand public. Quoi.
Si, avec...
J'étais au moment où t'as fait vachement en amateur aussi. Hein.
C'est ça. Il y avait qu'une première éphémère aussi.
Je sais, c'est de faire un... Du coup, nous sommes à quelle année quand vous êtes dans votre cave?
2016, 2015, 2016. Mais toi, JC, en fait, avait commencé...
Ouais, 2013, 2014.
C'est ça, mais JC avait commencé pratiquement 10 ans avant le brassage amateur, 10 ans avant la constitution de la société.
Ouais.
Et ensuite, il nous a embrigadés, en fait, tous les deux. Ouais. Et on a augmenté, en fait, en volume à chaque fois.
Okay.
Donc, on a commencé quoi, sur du 20 litres?
Ouais, c'est du 20 litres, ouais.
Et on a terminé sur du...
40 litres et après 70.
70, ouais. C'est ça.
Deux fois 70.
5, on était chaud, quoi.
Mais bon... Dans le caveau de mon frangin. Ça, et quand on faisait du 70, on était dans le caveau de mon frangin. Voilà.
Ouais.
Qui nous avait. En fait, il refaisait sa maison et il avait un caveau et on était dans son caveau.
Okay.
Et c'était assez marrant parce que quand on faisait fermenter les bières, il fallait mettre le chauffage et c'est du chauffage au charbon. Donc on venait tous les matins remettre des bûchettes pour arriver à 20 degrés pour les fermentations.
Ah, c'est bon.
Ouais. Pour te dire que c'est vraiment de l'amateur, quoi. Et les fermentations basses, on les mettait dans le frigo.
Mais je crois qu'il y a beaucoup de brasseurs qui ont commencé un peu...
Ouais, tout le monde a un peu la même histoire. Tu commences dans ta cuisine, dans ta cave.
Bah ouais.
Voilà, et tu montes un peu, après tu fais des trucs un peu plus gros et t'en distribues à tes amis, tes proches. Et si c'est bon, ils t'encouragent. Et si c'est moins bon, tu le vois à leur figure et t'as vite des retours un peu où ils sont sympas, mais...
Voilà, ouais, c'est bon, mais...
Bon, mais voilà.
Ouais. En gros, ils veulent même plus de tes caisses gratuites, ils les veulent plus, quoi.
Ouais. À partir du moment où ils veulent pas tes bières, c'est que c'est moyen. Décembre 17, on a décidé, on s'est dit, allez, on se lance dans le projet. En janvier, on s'est dit, allez, on prend une page blanche et puis on commence à écrire un peu ce qu'on veut faire. Et en parallèle, on a un peu accéléré justement le brassage amateur où on avait vraiment le projet de la brasserie. Et c'est là où en fait, on a investi dans du matos un peu plus sérieux pour vraiment travailler les recettes parce qu'on savait qu'il y en avait pour un an et demi à peu près jusqu'à ce que la brasserie puisse être opérationnelle. Mais donc là, on a vraiment multiplié les brassins, les tests. On a fait beaucoup de dégustations aussi avec les amis et la famille, dégustations à l'aveugle, notations et des choses comme ça pour voir un peu les ressentis et essayer de faire naître une première gamme de bières pour l'ouverture de la brasserie.
Et avant vraiment, en fait, donc c'était en décembre, on s'est quand même laissé 2 semaines de réflexion chacun et en parler un peu dans notre entourage, nos femmes. Enfin, bon, moi, j'avais pas de femme à l'époque, mais JC, Thibaut, oui. Donc, pour voir en fait comment elle prenait le virage à... Comment dire, 1000 degrés.
Parce que c'est vrai que Thibaut, il disait, il en avait marre du travail où il passait beaucoup de temps
sur la route
ou absent de la maison. Finalement, la brasserie, je sais pas si c'est un meilleur deal parce que on savait que ça allait donner quoi.
Ouais, non, c'est vrai que ce qu'on dit souvent, parce que les gens disent quand tu te mets à ton compte, tu le fais pour toi, donc c'est quand même déjà différent. Donc c'est vraiment entre guillemets nous aussi ce qu'on rend quoi. C'est notre personnalité, c'était notre projet vraiment. Donc, tu le prends différemment, le sacrifice, tu le fais...
On sait pourquoi on fait.
Logiquement, quoi. Ouais, c'est ça. Mais c'est vrai que le début, ouais, quand on y repense, quoi, on a donné beaucoup, quoi. C'était lourd, quoi.
Alors moi, je me souviens surtout, en fait, quand j'ai annoncé ça à ma famille, donc repas de famille au resto, donc c'était entre Noël et Nouvel An, et je l'ai refait comme ça depuis temps blanc. Bon, voilà, je veux construire ma brasserie, je pars de mon métier au Luxembourg. Et là... Gros blanc. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Voilà quoi. Et finalement, au bout de 2 minutes, ma mère elle m'a dit: ouais, bon, c'est toi, c'est sûr, tu fonces, tête baissée. Mon père, ils nous ont tous encouragés et les félicitations. Et vas-y, let's go, quoi, on y va quoi.
On partait tous d'une situation stable, posée, d'expérience et partir comme ça de zéro d'un projet où. Quand tu pars comme ça de zéro, tu sais jamais où ça va arriver, quoi. Mais
Et vous vous souvenez des premières questions que vous posiez à 2h du mat, parfois qui vous empêchaient de dormir
Moi, mes premières questions, c'était comment basculer du Luxembourg en France, parce que généralement, en fait, tu as les aides à l'emploi, tu sais, pour créateur d'entreprise. Mais vu que je travaille au Luxembourg, bah, c'était niet. Donc, comment faire, en fait, pour trouver une solution? Parce que, voilà, donc, mes parents m'ont accueilli pendant pratiquement un an et demi, deux ans. Donc, voilà. Et ensuite, j'ai travaillé... Bah voilà, le réseau quoi, coopérative Wolf Berger où JC travaillait, il m'a fait rentrer dedans pendant 6 mois pour toucher les allocations chômage pour pouvoir créer la société. Ça c'était le premier gros dilemme. Et ensuite les gros dilemmes c'était quel matos, où, quand, comment, quoi, enfin tout quoi.
Toutes les questions. Hein.
Toutes les questions quoi.
Ouais, mais tout ça aussi, moi c'est clair, c'était les premières problématiques, c'était de te dire, comment tu vas gérer la transition, comment tu vas, entre guillemets, quitter ton boulot, et essayer d'avoir un acte quoi, derrière pour retrouver un pôle emploi, parce que. Souvent, on peut, c'est compliqué de créer une société si t'as pas de rémunération derrière, parce que tes frais continuent d'arriver quoi, entre guillemets. Oui. Et moi, j'étais papa en même temps.
J'y sais pareil.
Il y a eu quelques insomnies.
Ouais, c'est beaucoup de
doutes, c'est des questions.
En fait, la stabilité quoi.
Et c'est papa jeune enfant, hein, c'est pas un enfant de. Il avait quel âge à cette époque-là, Basile?
Il venait dire ça. C'était dans ces moments-là quoi. Quand vous faisiez les dégustations et tout, je me souvenais, Annabelle était enceinte quoi. Quand on était chez toi, on avait fait les dégustations pour les amis, elle était enceinte quoi. Donc, c'était.
c'est marrant, on voit à côté. Testisseur et je regarde les gens autour, je me dis ah ouais, l'évolution quand même. Moi j'ai envie d'appeler ça une réussite quoi, parce que bien sûr une réussite c'est sur le long terme, mais finalement moi j'ai l'impression que dès que t'as une personne qui te dit merci ou j'aime votre bière, je pense que c'est votre plus belle récompense. De toute façon on fait ça pour ça, hein. On fait pas de la bière, du vin, du cidre, du gin pour pas que les gens soient contents, on va pas se raconter des histoires quoi.
Ah. C'est clairement notre slogan en fait, hein. C'est un peu, c'est des bières brassées par des amis pour des amis, voilà, ça c'est un peu notre leitmotiv, et on fait pas de la bière, enfin on veut faire de la bière pour que tout le monde apprécie, et c'est un lien social quoi en fait, en quelque sorte quoi, c'est vraiment ça quoi. Et notre bar et notre lieu ici de vie, c'est vraiment ce côté lien social qu'on veut mettre en avant quoi.
Mais en fait le nom Grillel est venu une fois que vous avez trouvé le local, c'était ça?
Tout à fait.
C'était quoi les premières ébauches? Vous vous rappelez des premiers noms que vous vouliez?
Opiness. Un nom anglo-saxon, quoi, un peu. Sur le modèle un peu que pas mal de micro-brasseries craft françaises ont.
Parce que vous êtes très sur l'influence des bières anglo-saxonnes, plutôt belges, plutôt allemandes?
Un peu tout, en fait. On est très, c'est très hybride bière, chez nous, en fait.
Ouais, plutôt, on va dire, quand même assez ouvert, mais on a quand même une grosse influence américaine et. Nord-américaine quand même de base, puisqu'on travaillait beaucoup de houblons et on travaillait beaucoup les houblons américains quand même. Ouais. Après, côté aussi un peu océanique. Et puis ensuite, on a quand même un côté anglais, belge, allemand qui traîne évidemment. Mais c'est vrai que nos bases, en fait, les trois premières recettes, c'était Cirrus, Mosaïque et puis Indy, qui sont quand même des bières généreusement houblonnées avec des houblons américains.
Et après, il fallait sortir. Thibaut te le martèlera encore à Pils en Alsace, quoi. Donc, c'est indissociable en fait l'Alsace et la Pils. Donc,
elle a aussi mauvaise réputation.
Pourquoi mauvaise réputation?
Je trouve que les gens font plus la gueule quand tu parles de Pils ou.
Pils, c'est la bière la plus difficile à faire, quand même. Hein. Oui. C'est t'as un défaut dedans, tu l'as. Hein. Par contre, dans des bières houblonnées.
Mais en fait, je pense que les gens, ils savent pas parce qu'on parle de blond, de brune. On est le seul pays déjà parler d'une couleur, mais j'ai l'impression que c'est en train de s'effacer, ça. On parle plus forcément d'une blonde. J'ai l'impression que les noms n'est pas.
Nous, on essaye de faire justement aussi une éducation un peu avec tous les clients qui viennent chez nous, de leur expliquer un petit peu les bières, ce qu'on sort comme bière, le nom du style, ce que ça signifie comme style, comment c'est produit, et leur expliquer la différence entre les différents styles. On leur dit bière blonde, bière brune, bière ambrée, c'est bien, mais ça signifie qu'une couleur. Alors que c'est vrai qu'on essaie d'aller plus loin et vraiment de leur faire un peu ouvrir les esprits et comprendre que des blondes, il y en a 5000, des brunes, il y en a 5000 qui existent. C'est vraiment le style de bière qui va caractériser ce qu'ils vont boire, quoi.
Okay. Et qui se souvient de la première fois où vous avez ouvert la porte de la brasserie, le premier brassin, vous vous rappelez du premier brassin?
Ici, ouais. L'effet papillon.
Premier brassin, ouais. Effet papillon, c'était en août, hein, je crois.
Ouais.
C'est ça.
Première fois qu'on allume les machines et qu'on met du malt dedans. Ouais.
Bière très simple.
Ouais.
Ouais, c'était notre premier test et qui a été.
Il y a encore des gens qui nous ont.
Qui a été plutôt une réussite. Ouais.
On pouvait pas la refaire et tout. Il y a deux, trois bières. En fait, les premières bières éphémères, on a certaines.
La Ziggy. Ils
ne sont pas la Ziggy. Ziggy ouais. Bière blonde au gingembre, au citron vert.
Celle-là, ouais.
si mes frères ils m'entendent.
Ouais, le frère agissait. Chaque fois qu'il nous voit, le grand frère dit ouais, il faut la refaire, celle-là, il faut la refaire. Ouais, il y a deux, trois personnes qui. Les bières du début qui les redemandent. Quoi.
Qui ont marqué. Ouais.
Et c'est vrai que souvent, moi, je suis le même, hein, quand je bois des bières éphémères, après, pourquoi elle est juste éphémère, celle-là ? Elle mériterait toute l'année, quoi. Mais maintenant, le problème, c'est qu'il y a trop de brasseries, trop de bières. Et t'as des brasseries qui font que des éphémères. Et moi, je trouve toujours ça incroyable. Et en plus, moi, j'ai la chance de vous avoir en face, voir les yeux qui pétillent. Et je trouve ça assez touchant, parce que là, on touche sur l'émotion. Là, c'est l'émotion sûr, pure. C'est sûr. J'aimerais que chacun vous me donniez votre définition de la bière. C'est quoi pour toi la bière, Tim?
La définition de la bière, c'est quoi? Là, tu me prends comme ça, mais bière, c'est convivialité, partage.
Nous, on a le temps de réfléchir, ouais, Thibaut. Prends ton temps.
C'est passion, artisanat, c'est eau, céréales, houblon, épices, quoi. Disons qu'on peut dire ça, le houblon, c'est épices. Et c'est l'incorporation, donc c'est une recette, en fait. Hein. C'est des éléments que tu vas mettre ensemble à un certain moment T, que tu vas faire dans ton process et qui va donner la finalité de la chose. Et il y a une identité à travers l'eau. Bien sûr, l'eau, hein, la qualité de l'eau joue. En Alsace, on a une bonne qualité. Le ouais. céréal joue, qui va donner aussi un goût. Et les houblons vont donner les saveurs. Et puis après, c'est la finalité, c'est le partage, la convivialité. Ouais, ça peut être ça un peu, ouais, ma définition. Okay. Je sais pas, c'est pas forcément synthétique, c'est...
Pas grave.
C'est...
Pas grave, ça me va.
C'est bien ça comme ça.
C'est bien.
C'est quoi une mauvaise et une bonne situation? Moi, la bière, voilà, c'est vraiment ce qu'a dit Thibaut. Pour moi, c'est le partage, clairement, le côté social et avoir un lien, en fait, qui est identifié. Et c'est ce lieu, en fait, ici, le bar, en fait, c'est vraiment ça, pour moi, ce lien social autour de la bière. Et c'est le côté aussi un peu perturbateur. Proposer en fait des produits qui sortent en fait du lot, surtout dans une clientèle un peu conservatrice ici sur Colmar. Je me souviens de la première bière d'une Lichtenhainer qu'on a sortie. Ça n'a pas fait que des heureux, mais par contre, ça a ouvert à beaucoup de monde, je pense, à qu'est-ce qu'on peut faire en fait dans le monde de la bière. Alors, on essaie de mixer un peu entre les deux, mais voilà, pour moi, le monde de la bière, c'est satisfaire effectivement un plus grand nombre de personnes de beaucoup boire, mais aussi derrière de ramener des petites touches perturbatrices, en fait, pour dire aux gens, mais bah, attention, la bière, c'est pas que ça, mais c'est ça aussi, quoi.
C'est ça.
C'est compliqué. Bah, c'est ce qu'on veut faire, mais effectivement, surtout quand on a des habitudes, en fait, de consommation,
ouais.
et les faire changer, en fait, dans les habitudes de consommation.
Ouais.
Et après, enfin, déjà là, on veut faire changer en fait les gens hein, dans leurs habitudes de consommation. Mais quand on va sur des choses complètement barrées, là, c'est encore là les gens, on les perd parfois effectivement.
Oui,
mais c'est le but. Et c'est pour ça que j'ai créé aussi cette brasserie, c'est pour être.
Moi, je vais être beaucoup plus synthétique. Ça va être création et partage. Finalement, ça va résumer un peu tout ce que Lick et Thibault ont dit, mais voilà, création pour les recettes de bière. Et ensuite, les partager avec les gens avec qui on a envie de les partager, avec qui veut les partager. Donc, voilà, simplement. C'est la base.
Mais je crois que c'est ça qu'on a conscience, je crois. Que c'est ça, moi, vous, les vignerons, c'est ce lubrifiant social qui est finalement le vin, la bière. Alors, avec mes modérations, évidemment, je répéterai souvent ce mot-là, parce qu'il est important. Et ça évite des problèmes, mais je crois que c'est ça qui est important, c'est la convivialité. On a besoin de partage. Là, je vois souriant, je vois les gens derrière.
Bon, on le voit bien en fait derrière. Ils sont tous une bière à la main et ils partagent en fait. Ils partagent des émotions, des moments en fait.
L'environnement alsacien, la bière est quand même très riche. Il y a des brasseries un petit peu partout. J'ai cru lire qu'il y avait quasiment autant de brasseries en Alsace qu'en Angleterre. Ça vous oblige encore à progresser encore plus.
Alors, on n'a jamais cessé de progresser, en fait. Hein. Ouais. On progresse tous les jours.
Ouais.
Et on... Enfin, moi, j'aime bien me définir comme ça. Voilà, c'est peut-être un peu réducteur pour nous, mais dans le monde de la bière, on est toujours un peu amateur dans le monde professionnel. On a toujours des choses à apprendre et à améliorer pour sortir la meilleure des bières au monde, en fait. Voilà. Pour moi, c'est le côté ultime que l'on veut toucher et qu'on veut atteindre. Mmh. Voilà, c'est l'objectif qu'on n'atteint jamais parce qu'on apprend toujours et qu'on veut toujours améliorer en fait certaines choses, que ce soit dans le process, que ce soit
marketing,
dans
enfin l'image,
tout l'image, marketing, le process, la qualité bière, et en fait ça passe soit par des connaissances, mais par du matos, par plein de choses en fait. Voilà, et je pense qu'on a encore beaucoup de choses. Voilà, il faut rester humble en fait. Hein, on est une toute petite brasserie hein, dans le monde de la microbrasserie. Tu parlais effectivement d'Angleterre où il y a autant de brasseries qu'en Alsace, mais peut-être que c'est des plus grosses brasseries en Angleterre. Et en Alsace, en fait, il y a beaucoup de
petites brasseries. Ouais.
C'est petite. Ça, de picot brasseries en fait.
C'est vrai qui que c'est un peu comme des champignons. Moi, je trouve ça génial. Hein. Je trouve que même pour moi qui fais les podcasts, c'est bien. Je peux bourlinguer, je peux voyager. Et ça permet aussi une ouverture. Et je trouve que voilà, il y a quelques marqueurs qui sont venus. Bendorf, Perle, Grillen, Thal, comme ça, et Saint Cru qui sont restés. Et vous faites partie en fait de ces brasseries un peu entre guillemets. Alors je sais pas si le mot vous l'assumez ou pas, un peu incontournable, mais
on s'en rend pas compte. Non. Enfin moi personnellement, je m'en rends pas compte en fait. Je fais ce que j'ai à faire et puis voilà quoi.
Ouais. Maintenant en fait, on réalise quand même que l'Alsace en fait est une terre brassicole. C'est ouais. Historique déjà. Ouais. Ça c'est un fait, c'est indéniable. Donc, il y a une culture de la bière qui date d'il y a des années et des années. C'est un peu comme le vin. Maintenant, c'est vrai que ces dernières années, on peut dire qu'il y a eu un bel engouement autour de la bière artisanale. En France, on a rattrapé le retard cumulé qu'on avait depuis de nombreuses années. Au fait, maintenant, la France est devenue le premier pays d'Europe en nombre de brasseries. Après, c'est vrai qu'il faut toujours rester humble, vigilant et le but aussi, ouais, comme disait Luc, et je pense que j'y sais partage aussi, c'est l'amélioration constante des produits, toujours avoir de faire un bon produit. Le but, en fait, faut que à la fin, les gens ils lèvent le verre avec une bonne bière, quelque chose de cool. Alors maintenant, c'est vrai que ça brasse un peu partout. Il y a, à mon sens, parfois il y a des choses qui sont pas toujours qualitatives. Moi, je l'assume, hein, voilà, en le disant que voilà.
Qui donne pas une bonne image en fait de la microbrasserie finalement. Voilà,
c'est cool, je trouve. Franchement, c'est vraiment cool. Je dis pas, mais ce qui est important, c'est aussi la qualité. C'est la qualité, la qualité constante et avoir un produit qui soit bien. Après, c'est sûr qu'en Alsace, il y a énormément de gens qui brassent maintenant. Mais aussi, ça, c'est ce que Brasseurs de France, on pourra en parler un peu si tu veux, mais maintenant, il y a aussi pas mal de fermetures. Il y a beaucoup de gens.
Je dis, on y en a aussi.
10%.
Maintenant, les chiffres, c'est une brasserie sur 10 ferme, voilà, actuellement. C'est vrai qu'en fait, tout le monde a un peu le même process que nous aussi, un peu qu'on a eu. C'est-à-dire que. Tu arrêtes ton boulot, tu es un peu rémunéré, tu as l'ACRE ou tu as une sub de Pôle emploi. On a 2 ans pour monter ton projet.
De moins en moins d'ailleurs maintenant, ouais, ça a changé. Hein, de moins en moins.
Effectivement, ouais. Mais je veux dire, si au bout de 2 ans, tu n'es pas entre guillemets viable, bah, souvent tu as des mecs qui ferment. Quoi. Et je veux dire, nous, un peu la force de la brasserie indienne, ce qu'on peut dire à notre avantage aussi, c'est qu'on est monté ça à 3, donc tu es solidaire quand même à 3. Et qu'on sait partager les rôles aussi. Et trois, tu vois.
Alors, j'essaie en off, on en a un petit peu discuté. Moi, j'ai l'impression que vous faites un peu partie, moi, de ce que j'appelle, alors c'est pour moi, hein, de ces brasseries Covid qui ont un peu bénéficié, entre guillemets, bénéficié d'une lumière parce qu'il y avait vous et les gens ne buvaient plus local. Et j'ai l'impression que vous êtes arrivé. C'est con ce que je vais dire, et peut-être au bon moment. Enfin, c'est un peu comme
le moins pire des moments.
Ouais, en fait. Mais c'est un peu comme
pris le dernier train.
Et c'est un peu comme quand je dis que le Pinot Noir a évolué grâce au réchauffement climatique, ce qui est une connerie sans nom. Mais dans les faits, c'est vrai le Pinot.
Alors, pour moi, clairement, c'est à double tranchant, en fait. Parce qu'on a ouvert, 3 mois après, boum, on ferme. Zéro aide de l'État, rien du tout. Hein. Donc là, on se dépatouille pour chercher, pour faire tourner la brasserie, en fait, hein, tout simplement, parce qu'il y a des charges quand même qui tournent. Mais par contre, l'avantage, donc ça, c'est un peu l'inconvénient, mais l'avantage, en fait, c'est qu'on a effectivement trouvé des nouveaux clients avec ce côté local, etc., qui a totalement changé hein, depuis, de nouveau. Et surtout, en fait, on a ouvert, en fait, avant l'augmentation de l'ensemble des prix, de l'énergie, etc., avec, voilà. Maintenant, pour ouvrir une micro-brasserie, c'est beaucoup plus difficile que lorsque nous, on a ouvert. Il faut des gros investissements, il faut tout de suite travailler, en fait. Moi, quand on a des gens qui viennent chez nous, ils nous posent des questions, je leur dis, mais posez tout de suite sur du 10 ou du 20 hecto, en fait. Voilà, et il faut que vous ayez des produits bons, parce que en fait, il y a une grosse concurrence actuellement sur le marché.
Et je pense que l'expertise est plus importante. Enfin, moi, j'estime ne pas encore avoir le palais, ou même sur le vin. Je pense que même dans 10 ans, j'aurai ce discours-là, mais parce qu'on a tous besoin d'évoluer, et puis on progresse, heureusement. Mais je trouve qu'aujourd'hui, l'expertise que j'ai, c'est que bah, y a ce qui est bon, ceux qui ont l'habitude de faire de bonnes choses, et t'as quand même des bières où tu dis...
Ouais. Peut-être alors, pas, quoi. Moi, j'aime pas dire trop
mais
ça.
Mais sur le vin nature, j'ai aussi ça. J'ai ceux qui font du vin nature parce qu'ils sont convaincus, et ceux qui se disent « Ah, je fais du vin nature parce que, tiens, ça fonctionne, il y a un marché, etc. »
Après, moi, je pars aussi du principe que les goûts, les couleurs, en fait, chaque personne est différente. Et que moi, si j'apprécie pas une bière, en fait, ça ne veut pas dire que l'autre, en fait, derrière, ne va pas apprécier cette bière et cette brasserie-là. Il n'y a pas tout le monde qui apprécie, en fait, la brasserie de Grillen non plus. Mm. Donc, en fait, il faut l'accepter aussi. Oui. Et c'est tout à fait normal, ouais, en fait.
C'est comme un film. Un
bouquin. Exactement.
Ouais, exactement.
En fait, c'est une émotion. Souvent, on boit une bière, c'est une émotion. C'est un moment partagé avec des amis. On se souvient. On se souvient tous d'un verre de vin qu'on a bu à telle et telle, même une bière, quoi. Je veux dire, toi, la note, je m'en souvenais parce qu'à un moment donné, je voulais pas la goûter et puis on m'a dit tiens, goûter. Je sais encore à quel moment, le jour et avec qui. Donc voilà, et c'est aussi une personne qui d'un coup m'a fait évoluer dans ma consommation de bière parce que les bières noires, c'est pas du tout mon truc et je refusais de goûter ça. Ce qui est quand même très con.
C'est exactement ce qu'on essaye de faire en fait. C'est vrai que souvent les gens ils viennent, ils ont leurs petites habitudes avec la mosaïque, avec les bières classiques et on leur dit on a sorti une nouveauté, goûtez quand même, prenez une bouteille. Je veux dire, vous n'avez rien à perdre à y goûter. Et beaucoup de gens en fait ils vont la goûter, bon ils vont dire voilà je l'ai goûté mais sans plus. Mais il y en a d'autres qui vont dire ah ouais je l'ai goûté, en fait c'est super bon et ils en reprennent. Enfin, c'est vraiment, on incite à ouvrir son esprit, comme ce que tu racontes. Tu as beau ne pas aimer un certain style de bière, je pense que c'est important de goûter quand même pour dire bon ben voilà je l'ai goûté, je confirme, j'aime vraiment pas. Ou alors ah ouais en fait même dans ce style de bière que j'aime pas, on peut trouver des choses quand même qui peuvent être intéressantes dedans quoi.
Et c'est genre
l'ouverture d'esprit.
Ces gens-là généralement quand ils goûtent et ils aiment, ils reviennent, il y en a plus et ils sont déçus.
Ça m'est déjà arrivé. Mais c'est vrai que là, j'ai goûté Liberté. Alors, Liberté, c'est l'étiquette avec la statue de la Liberté, puisque la statue de la Liberté a été faite par Bartholdi. Et Bartholdi est né où ?
À Colmar.
À Colmar. Donc, la statue de la Liberté est alsacienne, s'il vous plaît.
Avec sa petite coiffe.
La structure.
La structure, oui. Donc, ça, c'était Liberté. Donc, ça, c'est la Pils, hein, c'est ça ?
C'est ça, oui.
Donc, ça, c'est tout de suite celle que j'ai demandé, parce que c'est la première que j'avais goûtée de chez vous. Donc, forcément.
Bah, c'est une des premières. Et après, comme tu disais, même si la Pils, c'est un style un peu boudé par rapport au nouveau style des houblons et des choses comme ça, mine de rien, aujourd'hui, la Liberté, chez nous, c'est presque 25% de notre prod.
Okay.
Parce que c'est une bière qui est aussi très grand public, finalement. C'est peut-être un petit peu moins la bière de dégustation, contrairement à d'autres. Mais par contre, c'est une bière, tu en bois une, deux, trois, quatre.
Ah, du coup, on passe à l'étape 2.
Allons-y, ouais.
Là, c'est pareil. On goûte Cyrus. Je trouve ça, là, il fait bon. On est dehors. Je trouve que c'est vraiment la bière un peu estivale. T'es assis sur ta terrasse, t'aurais été désaltéré. C'est
clairement. Hein.
Je trouve ça. Et puis l'arôme, le côté citron, l'équilibre est plutôt parfait.
C'est la fraîcheur, la légèreté, ouais. En fait, hein, la Cyrus. D'où le nom, en fait. Cyrus, c'est un nuage, en fait, qu'on va pouvoir retrouver dans le ciel. Mais c'est pas des gros nuages, c'est des tout petits nuages, en fait, des petits filets qu'on pourra retrouver vraiment très haut dans le ciel. Et vraiment, la Cyrus, en fait, on appelait ça Cyrus parce que ça fait un peu penser à ça, à cette légèreté, à cette fraîcheur, en fait. Que tu vas pouvoir retrouver dans la bière.
C'est le nuage là que tu as ici là, tu vois. Ça c'est des cirrus.
C'est cirrus, ouais.
Mais petite histoire justement à cirrus, ouais, j'ai rencontré des Américains là la semaine dernière et le mec il était ingénieur dans une entreprise d'aviation et ça s'appelait Aircraft Cirrus et il était tout fan, il était comme un fou. Et il m'a dit que en fait le cirrus, quand t'as un nuage cirrus, c'est que tu voles en avion, c'est easy going quoi, c'est t'y vas, c'est safe et c'est le bon nuage pour voler pour les pilotes d'aviation.
C'est exactement pareil pour l'aviaire. La cirrus easy going.
Mais moi c'est vrai que moi je suis très amateur quand il fait bien chaud de ce genre de bière, un peu sur l'acidité, sur la légèreté, sur la finesse. Je suis assez amoureux du courant des bières avec le moins de degrés d'alcool. Alors, le bière sans alcool, il y a débat, il y a à boire et à manger. Même dans les brasseries artisanales, ce que j'ai goûté ne m'a pas forcément
transcendé.
Après, c'est un parti pris, je respecte. Ouais, je pense que si j'ai envie d'un soft, je prends un soft. Quoi. Donc,
c'est pas simple à faire. Non, c'est pas simple.
Et je ne suis pas persuadé. Enfin, j'ai un peu vu le processus pour faire du vin sans alcool. Je me dis... Bon, les mecs, si vous voulez faire du vin nature sans alcool et l'envoyer en Belgique, refaire, je vois pas encore trop en quoi c'est nature.
C'est le genre de choses qu'on fera pas ici non plus, parce que...
C'est vrai, pour rebondir sur ce que tu dis, parce que je suis aussi ton podcast et j'ai déjà écouté le podcast avec notre très cher ami Denis Héberger,
ouais.
Pour le citer.
Qui était énervé ce jour-là,
il était bien, il était en forme. Et c'est vrai ce qu'il disait.
On l'aime comme ça.
Pour rejoindre, c'est vrai que le vin en Alsace, c'est compliqué parce qu'il y a des grandes instances, c'est structuré, c'est très paysan. Il y a le côté les gens ancrés dans la terre avec certains des vieilles idées, d'autres des nouvelles idées qui viennent. Et c'est beaucoup de débats, beaucoup de temps et c'est structuré. Mais c'est vrai que pour des vignerons nature, ça doit être frustrant parce qu'ils font beaucoup de... Il y a un énorme travail dans les vignes qui est fait. Et bon, après, pour des jeunes vignerons qui font du nature, qui font des vins oranges, qui font des pétillants naturels, voilà, ils sortent totalement du cadre de l'AOP alsacien classique.
Pinot gris rouge.
Voilà. Donc, c'est sûr, ouais, j'imagine que c'est un peu plus compliqué, alors que nous, on a cette chance d'être beaucoup plus libre, créatif, et c'est ce qu'il faut que la bière reste, et c'est ce que beaucoup de gens en viennent. On a déjà reçu... Des équipes de restaurants gastro et tout qui sont venus avec un sommelier et tout, et à la fin les gens du service s'amusaient et ils disaient ouais c'est ça en fait la bière c'est fun, c'est des contracts, c'est un peu moins alors je peux le dire mais c'est un peu moins prise de tête que le vin quoi je pense, tu vois, c'est plus facile quoi quand même, tu vois, je pense c'est un peu ce qui fait le succès actuel de la bière, c'est que
de toute façon on boit plus de bière maintenant que de vin en France. C'est passé devant
la courbe, c'est inversé, ouais. En Allemagne ça fait l'inverse.
Mais c'est pareil, nous le problème c'est que le vin est encore un peu trop élitiste, même si j'estime que ça a déjà baissé un petit peu, alors que la bière clairement, c'est ce que je disais tout à l'heure, il y a 4 ans ou même 5 ans, mettre une bière sur une table de Noël, pour moi c'était une hérésie. Il y a 2 ans, j'ai mis la Ralph en Magnum sur la table. Je me suis dit, personne ne va y toucher. Je vais la voir pour moi. Tu parles, ils ont tous vidé la bouteille et j'ai fait la gueule.
La prochaine fois, on achète dans 2 ou 3.
Un Jéroboam.
C'est ce que je vais faire. Donc faites-moi des Jéroboam. Non, je vais carrément prendre un
tonneau.
Mais c'est là aussi, l'année dernière, j'ai fait une dégustation bière et huître. Jamais dans ma tête, je me suis dit, mais... Comment, tu vois, aujourd'hui, si j'ai envie de faire une vidéo, conseille-moi un vin avec, mais aussi avec une huître, mais en fait, la bière, tu mets quoi avec ? Et je pense que c'est là où la bière a évolué et c'est là où le vin doit encore être un peu plus festif. Mais,
alors, tu vois, là, tu parles de quelque chose et je pense que là, Thibaut peut te parler par rapport à ça aussi parce qu'il a une spécialité dans tout ce qui est alcool fort, mais c'est pareil, je pense, avec des whisky, des rhums, des choses comme ça. Je pense, Thibaut, non, tu peux en parler aussi. Voilà, c'est le même combat, en fait. Tu peux faire ça avec n'importe quel type de boisson, en fait, finalement, quoi. Donc, c'est des choses qu'on veut faire.
C'est vrai qu'en France, on a plus l'habitude du vin parce que le vin, c'est de l'amour, c'est bien. Tu vas mettre un Bordeaux sur table, c'est toujours bien. Bon, plus forcément sur la mienne, mais moi, je suis content d'avoir un petit vin. Ça me va. À Denis Héberger, j'ai pas besoin de boire un Bordeaux.
L'avantage, c'est que tu parles des gens qui aiment le vin, la bière, les filles. On a un peu tous le même défaut. Là, je crois c'est qu'on aime un peu trop les bonnes choses, quoi, mais avec modération.
C'est ça. Alors, on est un peu parti. On va revenir un peu sur Grillen. Qui c'est le rôle de chacun finalement ? Toi, tu es dans la prod. Toi, tu es plus commerce.
C'est ça, ouais.
Et toi ?
On sait pas.
Moi, je suis un peu le joker, non. Je fais plutôt tout ce qui est gestion financière, comptabilité et gérance du bar, en fait.
Là, t'es dans les chiffres.
Le truc chiant.
D'accord.
Voilà.
Ouais, c'est pour ça que tu bois.
C'est pour ça que j'ai des lunettes et des boutons. Ouais.
Et justement, dans la création, les bières éphémères, qui c'est qui a les idées en général?
Tout le monde.
Ouais, là, c'est un melting pot. Là.
Ouais.
Melting pot. C'est la réflexion commune.
Ouais.
En fonction des envies, de ce qu'on voit, de ce qu'on goûte.
Intelligent.
Et c'est des débats entre vous
ou... Ouais.
Du brainstorming, ouais. Comme on dit. C'est de l'odeur.
Enfin, on en discute. Après, on se dit aussi qu'est-ce qu'on peut sortir, quand, comment, avec quoi.
C'est
on élabore une recette, on la modifie,
c'est
on l'ajuste.
Qui t'es-tu, les trois?
Les trois.
Ouais. Ouais. Ouais, il y a du caractère dans le Grillen. Hein.
Clairement, les trois.
Ah. Mais c'est génial. Et justement, là, vous préparez de nouvelles bières éphémères ou pas?
Oui, il y a des idées.
Mais il y a toujours des bières éphémères.
Il y a des idées, mais maintenant, il faut les brasser, quoi.
Ah ouais. Justement, on goûte une troisième bière?
Allez.
Par exemple, on parlait des Bingers, si on peut goûter...
Ah, alors ça, c'est de l'avant-première, ça.
Bah oui. C'est déjà.
On va voir ce que Thibaut y rapporte.
Ouais.
Non, ouais, donc on a les éphémères là qui sont déjà en bouteille. Là, les dernières sorties, c'est la planche à clous qui était notre bière d'anniversaire là, qu'on a fêté le week-end dernier, le 9 septembre. Et puis, on a la Misty Rose et la Force Tranquille qui sont aussi un peu nos bières d'été du coup.
Ouais. Le Cerose que j'ai goûté à Strasbourg.
La framboise, ouais. Exact, ouais, qu'on avait au gré des bières.
Qui était drôle.
Et du coup, là maintenant en cuve, on a vraiment les éphémères avant-première. On a donc une Hefeweizen qui arrive, et puis ensuite l'autre qui fait un beau clin d'œil justement au raisin, avec Denis Ebinger qui est...
En fait, on a une deuxième grape ale aussi, mais le processus en fait est totalement différent, et la matière en bouche et tout ça est totalement différente aussi. Et qui est faite aussi avec Denis.
C'est ça que j'aime bien, les collabs bière-vin, moi je trouve ça extraordinaire. Bon, on revient par la dégustation.
On va boire un canon, hein ?
Ouais.
Birkin time, les bateaux. Birkin time.
Askild. Yeah. Tu vois, ça, c'est le genre de bière, Grapevine, pour revenir sur celle-là, c'est... Là, ce qui m'intéresserait, ce serait d'avoir un chef qui nous fasse un plat, vraiment avoir cette réflexion-là, à la fois peut-être un plat gastro, mais aussi un plat un peu plus simple. Hein,
bistrot.
Là, je suis en train de monter une cochonaille, mais je veux des vins nature et je veux quelque chose qui soit festif. Et,
ça, tu peux mettre avec ta cochonaille.
Ouais, je pense que ce serait pas mal. Je pense que la deuxième, on va faire une cochonaille bière, ça changerait un petit peu. Bon, allez, les petites questions à la volée... je vous pose la question à tous les trois, vous répondez l'un après l'autre. Je vais commencer par toi. Avant l'amour, tu bois quoi?
Ah, du vin quand même. Apéro bière et ensuite un dîner au vin. Du classique. En
fait. Tu bois beaucoup avant l'apéro, faut pas t'endormir.
Non, au contraire, ça m'excite.
Ah, oh. Luc.
Tout.
Aïe.
Non.
Il me fait une réponse d'ado, là.
Ouais, tout. Ouais,
j'aime tout.
Bière, vin.
Tant qu'il y a de l'alcool.
Exactement.
Ouais, moi, c'est tout aussi. Hein.
Ouais.
On aime tout. Ouais, c'est cool, mais voilà quoi.
Et après l'amour, c'est plus intéressant.
Naps. Non, j'ai...
Toi, tu vas dans ta cave secrète de spiritueux et...
Ouais, non.
Un petit remontant.
Non, ça, je te dis tout, non, mais généralement, spiritueux, non. Donc, non, j'aime bien... Faut garder le contrôle quand même. Quoi, tu vois.
Moi, c'est plutôt de l'eau parce que je suis bien dépensé.
Ah, regarde le sportif.
Voilà.
Si vous pouviez être une brasserie, pas vous... ce serait qui? Quelle est la brasserie qui vous impressionne le plus?
Ah, c'est une bonne question, ça.
Sauf.
Ouais, pour moi, c'est Benorf.
Ok.
Bel hommage.
Ouais, c'est avec eux que j'ai découvert la craft et qui reste toujours aussi super créatif
Et je pense qu'on a des valeurs qui sont relativement proches. J'espère juste qu'ils ne pensent pas qu'on essaye de les copier parce que ce n'est pas du tout ce qu'on veut faire. Mais en tout cas, c'est une brasserie avec qui on s'entend bien et qui a toujours de bons produits. Bon, parfois des choses aussi qu'on aime moins, mais en tout cas qui osent beaucoup.
Oui.
C'est okay. Ça qui. L'audace, en fait, c'est ça que je.
Avec le nombre de bières que vous faites, ou même les vignerons en Alsace, si t'aimes pas un ou deux vins, c'est pas très grave. Une ou deux bières, c'est pas très grave. Il en reste plein.
C'est ça.
Et toi, Thibaut, si tu veux choisir et être une brasserie,
c'est qui ? Moi, c'est. Alors, moi, il y avait une brasserie que. Bah, c'est aussi un peu un souvenir de mon passage en Californie. De mon expérience là-bas à San Francisco qui s'appelle 21st Amendment Brewing et ouais ils sont top, c'est des anciens de la première génération de craft des États-Unis, donc c'est des papis maintenant quoi les mecs, mais enfin non j'exagère, des papis, mais ouais c'est des anciens et ils font de la brasserie craft dans l'esprit aussi un peu Guyane. Des bonnes bières IPA, mais des bières de copains à partager avec un esprit vraiment brewpub à San Francisco, parce que les Américains, ils sont plus aussi brewpub, vente directe avec les consommateurs. Donc un lieu, une brasserie, un bar dans la ville de San Francisco, et ils faisaient une bière blanche, une wheat beer au melon, qui était juste une tuerie.
Au melon.
Ouais. Et franchement, ouais, c'est une brasserie, gros coup de cœur pour cette brasserie.
Donc, ouais, des yeux qui pétillent.
Ouais, carrément.
Merci.
Après, il y en a plein d'autres, mais ouais, si tu me dis comme ça, une, voilà, c'est un petit truc, ouais, c'est personnel, quoi, mais carrément stylé.
Et Luc ?
Moi, j'ai été éduqué en fait à la bière belge, hein, dans le groupe belgo-brésilien, et du coup, moi, saison d'Herpemer, par exemple, Belgique. Et après, ce qui m'a fait vraiment vriller sur la craft, c'est Vancouver. Avec JC, Brasserie Philips, avec leur White IPA qui était juste énorme.
White Unicorn.
Ouais, c'est ça, la Unicorn ou quelque chose comme ça. Et ça, c'était juste génial. Voilà, ça, c'est vraiment mes deux gros coups de cœur, en fait, qui m'ont fait rentrer.
C'est quoi la dernière bière que vous avez bu qui vous a mis sur le cul ? Vous vous dites, putain, ça, j'aurais bien aimé.
La planche à clous. Non, je déconne.
C'est bien, tu te révèles que tu aimes tes bières, c'est plutôt... Donc, Scoop. Luc, ses propres.
Alors moi, j'ai des gros problèmes pour me souvenir le nom des bières et des brasseries. On en a goûté une là il y a une semaine, un soir, là, en fin de service, qui était une bière aux fruits rouges.
Ah oui. Antidote. Antidote.
Ouais, c'est vrai. C'est la dernière claque.
C'était bon.
La commune. Antidote. Ouais, bière
super bon.
Belge ouais. Que notre poteau Gaëtan Camille, que tu dois connaître. Peut-être. Ouais. De la team
des intenables.
Ah, exactement.
Donc, hommage à Gaëtan.
Ouais, hommage.
Qui a une connaissance sur les biens, ouais, les bières et les vins. Qui
c'est sûr
incroyable.
Que t'aimes bien qu'il t'apporte une bière et qu'il l'oublie ou qu'il l'oublie volontairement. Quoi. on l'a honoré. On
toujours
l'a
avec bu, le sourire.
On l'a vu à quelle heure, 1h ou 2h du mat. Et il m'a répondu, il devait être à travers
je pense qu'il dort
un festival, je ne sais pas où, quoi, mais il a répondu et tout. Et ouais, c'est vrai que c'était dingo.
Belle claque. Et c'est claque. Comme ça aussi que naît un petit peu les idées. En goûtant ça, on se dit, putain, c'est vachement bon, quoi.
On devrait faire la même chose.
Et c'est vrai que c'est ce que tu dis.
Source d'inspiration.
Sous inspiration, c'est des bières. En fait, c'est une bière aussi qu'on a goûté. Qu'on a dit, tiens, ça, nous, avec
notre matos,
nos trucs, c'est des trucs qu'on pourrait. On pourrait au moins prétendre à essayer de faire et d'arriver à un truc comme ça, quoi.
Et c'est vrai que ce que vous pourriez faire, alors, c'est pas mon idée, mais enfin, j'ai un peu développé parce que je sais que. Mogwai et Bendorf se sont lancés un défi, c'est que chacun fait une bière de chez l'autre. Et ça pourrait être limite un jeu que vous pourriez faire entre vous. C'est, je sais pas, toi tu fais une bière de, je sais pas, Sainte-Crue, Bendorf, machin, et ça pourrait être drôle. Mais je pense qu'aussi ça pourrait témoigner d'un truc, c'est l'ouverture d'esprit. Ok, quelque part, entre guillemets, on est concurrent. Est-ce qu'il y a de la concurrence, forcément. Mais en fait, c'est tellement positif, quoi. C'est tellement positif parce qu'il y a une émulation qui arrive et dans le monde du vin nature, c'est pareil, il n'y a pas de concurrence directe. Ok, mais chacun essaye de croquer, chacun essaye de partager. Moi, je trouve ça c'est assez incroyable et cette richesse que vous avez, quoi. Et je pense que même en Belgique, je crois que tout le monde a rêvé à un moment donné de faire, chaque brasseur a dû rêver, artisanal, a dû rêver de faire une Contillon ou avoir la renommée de Contillon, quoi. C'est quand même.
C'est clair.
Je trouve que je ne suis pas trop à foot, mais je trouve que la Détroit belge qui boit de la Cantillon tous les dimanches, ils ont une sacrée chance. Hein.
C'est sûr.
je trouve ça génial. Et cette émulation qu'il y a entre vous, moi, je trouve ça assez incroyable. Et je crois qu'on a beaucoup ça en Alsace. Quoi. Enfin, en tout cas, moi, quand je bourlingue les salons que j'ai faits, on me dit souvent, mais ce qu'il y a chez vous en Alsace, nous, on ne l'a pas dans nos régions. Donc...
Même nos clients. Hein. Nos clients, ils viennent chez nous, mais ouais. Ils ne viennent pas que chez nous, en fait. Ouais. Ils aiment bien aller à Thal, ouais. Ils aiment bien aller chez Boomer, ils aiment bien aller chez ouais. Sainte-Crue, ouais. Goûter, en fait, et ils tournent.
Ouais, mais je pense que avant, autrefois, moi, mon père, il avait une maison, c'était une maison, et il cherchait ses vins là-bas. Mais maintenant, aujourd'hui, je pourrais même plus avoir.
Ouais, c'est la curiosité de bouger.
Mais j'ai envie d'être surpris, en fait.
D'autres trucs, mais c'est logique et c'est cool, quoi, je pense.
Vous allez me faire chacun votre gueuleton. Alors, je voudrais que dans ce gueuleton. Alors, vous pouvez faire intervenir qui vous voulez, des personnes. Alors, avant cette question, puisque c'est la dernière, j'en ai une avant-dernière que je tiens quand même à... C'est quoi que vous avez appris l'un de l'autre depuis que vous êtes enfant et...
Alors,
ça y est, j'ai touché une corde sensible.
Après, on se connaissait en tant que potes depuis longtemps. Donc
ouais, mais entre en potes et travailler ensemble, c'est encore ouais. Différent. Et je pense que ça ne doit pas être toujours... Qu'est-ce qui est le plus... Il y en a un qui est plus susceptible que l'autre ou pas? Non, pas tant que ça.
Non,
c'est moi, j'ai l'impression que vous êtes assez carré. Et...
Il y en a qui sont plus carrés que d'autres. Ouais. Moi, par exemple, et je pense que ça doit énerver d'autres personnes.
C'est bien que sur les chiffres, vous êtes un peu carré.
Ouais, mais c'est pas marrant non plus. Après, il faut aussi se détendre. Tu vois. C'est... Trouver la bonne balance, c'est pas simple. Voilà, après, je pense qu'on fait preuve aussi beaucoup d'adaptation. D'où cette complémentarité aussi entre nous trois. On essaie de s'adapter. Il y a des choses qui irritent l'autre et inversement aussi, mais après c'est chacun et comme il est et il faut respecter en fait ça aussi. Et voilà quoi, et c'est pas simple en fait, c'est comme une vie de couple, hein, c'est la même chose. Hein.
Et sur quoi
un ménage à trois.
Un ménage à trois, mais sur quoi par exemple, vu qu'ils t'ont fait évoluer ou progresser, ou qu'est-ce que tu as appris d'eux? Ou qu'est-ce
moi,
que tu leur as jamais dit que tu voudrais leur dire?
Clairement, Thibaut, c'est surtout ce qui est spirituel, clairement. Ouais. Parce que moi, j'y connaissais absolument et rien du tout. Y a ça. Et aussi, en fait, comment dire, je ne vais pas dire ça parce que c'est trop péjoratif, mais c'est quelqu'un, en fait, qui attire le monde, en fait, autour de lui. Très facilement. Il a un aura, en fait. Et j'y sais aussi, mais différemment. Il a un autre charisme, en fait. Voilà, c'est plutôt du charisme avec des gens avec qui il veut vraiment s'impliquer. Donc, il va les accueillir, en fait, plus difficilement dans son cercle. Mais une fois que c'est dans son cercle, c'est dans son cercle. Thibaut, lui, c'est un cercle beaucoup plus large. Voilà.
OK.
Et en fait, c'est dès que lui dit quelque chose, tu vois, c'est... Ouais, tu connais pas quelqu'un, il fait... Si, si. Voilà. C'est plutôt ça.
C'est un peu le côté suisse humain, quoi. C'est, il y a toujours une solution, toujours quelqu'un.
Il y a toujours quelqu'un, en fait. Il a des connaissances. C'est pas, voilà. Mais c'est pour ça que je dis la différence de cercle, en fait, et comment. Voilà. Il a un très très grand cercle. Il a toujours eu, je pense, des bons contacts avec ces gens-là, pardon. Et il peut lui donner. Voilà. Et JC, il a aussi un cercle beaucoup plus restreint. Mais par contre, c'est des gens, en fait, sur lesquels on peut vraiment compter. Par exemple, sur un anniversaire, on demande des bénévoles. C'est des gens qui vont être là. Et voilà, ils sont là pour la brasserie, mais aussi pour JC. Quoi.
Ouais, c'est clair.
Et du coup, JC, je te posais la même question. Qu'est-ce qui t'impressionne plus? Qu'est-ce que tu as le plus appris d'eux? Qu'est-ce que tu leur as peut-être jamais dit?
Bon, ouais. Si on a déjà beaucoup parlé, là, enfin, c'est vrai que depuis qu'on a monté la brasserie, on a une relation qui est différente par rapport à avant. On était juste des copains, on se voyait juste pour faire la fête.
Il y a d'autres enjeux aussi.
Mais c'est vrai qu'on avait tous en fait un caractère ou tous nos habitudes un peu dans notre travail où on fonctionnait un peu comme ça. Et il faut apprendre un peu à travailler ensemble. C'est vrai que je pense que moi, j'avais commencé, j'étais... je suis quelqu'un qui est quand même relativement borné sur des idées. Et j'ai dû apprendre beaucoup à lâcher du lest par rapport à mes idées, à mes convictions, même si on partage beaucoup de choses en commun. Mais je pense qu'au début, j'étais beaucoup plus un peu directif, un peu c'est comme ça et pas autrement. Et en fait, avec le temps, c'est intégrer un peu plus aussi les opinions des autres, même si c'est peut-être qu'ils vont
partagent pas,
peut-être qu'ils vont dire que c'est pas vrai ou je suis encore trop borné. Mais en tout cas, j'essaye en tout cas de relâcher beaucoup de lest et de laisser un peu plus chacun faire aussi un peu comme il veut. Je pense que je voulais beaucoup que les choses soient faites à ma manière,
à ta vision, ouais.
À ma vision. C'est encore beaucoup le cas sur la prod, puisque c'est moi qui gère la prod. Mais après, sur les autres parties dont je ne m'occupe pas, finalement, on me demande mon avis, je le donne. Parfois, je le donne même sans qu'on me le demande, mais voilà.
Et bon, toi aussi.
Ouais. Mais c'est lâcher du lest. Et puis, c'est pas vraiment une question de faire confiance, parce qu'on fait confiance. Mais c'est, voilà, bon, bah, écoute, tu vois ça comme ça. Écoute, on est tous d'accord, alors on fait ça comme ça, quoi. Même si maintenant, moi, je le ferais différemment. Voilà, c'est toujours comme ça. Moi, je le ferais différemment, mais tu vas le faire comme ça. Écoute, vas-y, fais comme ça. L'objectif, c'est que tout roule, en fait, et qu'on arrive à atteindre ce qu'on s'est fixé comme objectif. Donc, c'est voilà, vraiment, je pense, lâcher du lest et faire un peu plus confiance sur.
Ouais, j'ai l'impression que ça roule plutôt pas trop mal, donc ça va.
Comme quoi ?
T'en penses quoi ?
Ouais, là, tu mets un doigt sur des choses qui sont toujours la complexité, en fait. Comme disait Luc et JC. À la base, tu as trois potes, hein, les gens tous disent, posent des questions, et toujours, c'est toujours un sujet aussi qui revient, ça va, la cohabitation tous ensemble, etc. C'est vrai qu'à la base, t'es des potes, tu montes une entreprise, après, t'évolues aussi, donc t'intègres des salariés, t'augmentes tes volumes, et si ça, t'as toutes tes problématiques qui sont là, donc t'as la tête dans le guidon. La chance, voilà, comme on l'a dit, c'est qu'on a chacun sur trois secteurs différents. Donc, on ne se marche pas dessus. Mais après, les décisions sont quand même prises par tout le monde. Et il y a ce côté d'être tous ensemble et de travailler, d'aller dans la même direction, d'accorder les choses et de s'adapter au caractère de chacun. Donc, c'est sûr, c'est quand tu es à trois, chacun a ses qualités et ses défauts et d'arriver à cohabiter. Et que pas l'un ou l'autre se sente un peu délaissé. C'est sûr que des trois, je suis un peu le plus bordélique et le plus élégant libre à ma manière, quoi, vis-à-vis des autres, tu vois.
Mais tu y arrives quand même, Thibaut, en fait. Ouais. C'est
sûr que après, avec Luc, il est assez patient et il te donne quand même aussi. Il aide à te structurer pour quelqu'un qui a un peu du mal à s'organiser. Donc moi, j'apprends à travers ça. Après, c'est pas toujours facile pour lui, c'est pas toujours facile pour moi. Quand t'as quelqu'un qui est, comme lui le dit, plus carré, moi un peu plus, de cohabiter, et quelqu'un qui anticipe un peu mieux que moi.
Et se remettre en question, c'est jamais évident.
T'as des choses, mais ça se fait. Et puis JC qui est dans son process et qui doit gérer la prod aussi, donc... C'est sûr qu'on a tous nos soucis, on a tous nos trucs, et qu'il y a des moments où il faut que ce soit comme ça. Et il faut accorder, faut s'accorder ensemble. Donc c'est, mais au bout de maintenant, on a 4 ans, quoi. On a soufflé 4 ans. On a trouvé notre petit rythme, mais c'est sûr qu'il y a...
Comme du raisin
dans,
et des papilles.
Comme raisin et des papilles, Mais c'est vrai qu'il y a tout ce truc, quoi, qui fait qu'il y a des moments de rush, et c'est dans les moments de rush où ça pousse, où on est un peu sous pression. Et trop de pression, ça fait de la mousse, mais nous, on ne la subit pas, la pression.
C'est ça. Allez, dernière question avant de finir ce magnifique entretien qu'on a eu. Je voudrais qu'on fassiez le gueuleton. Alors, pour moi, je voudrais que vous me disiez qui on invite. J'adore manger. J'aime, et encore plus depuis la chasse au trésor, je suis encore plus fan des grands banquets et je trouve qu'il n'y a rien de plus beau que des gens qui se rassemblent et qui partagent un moment autour d'une table. Donc, dans ce gueuleton, je voudrais que vous me disiez ce qu'on mange, ce qu'on boit et qui sera autour de la table. Évidemment, ça peut être des personnes qui sont encore là ou des personnes qui ne sont plus là. J'ai eu droit à tout, à des grands-parents, à des artistes qui sont morts. Enfin bref, les gens sont partis loin. Ça a même parfois un peu touché la corde sensible, surtout les anciens vignerons. Ça les touche parfois... Parce que forcément, quand on parle de soi, comme je vous fais souvent parler du passé, ça évoque souvent des choses et c'est bien aussi. Puis nous sommes des humains. Alors, j'y sais, tiens, pour toi, hein, le meilleur gueuleton, ce serait quoi? Qu'est-ce qu'on mange? Qu'est-ce qu'on boit? Avec qui sera autour de la table? C'est ton dernier avant de mourir. Qui tu veux autour de ta table? Mais ne meurs pas, hein, je ne te le souhaite pas. Le minimum.
Pour moi, tu vois, je pense que ça serait un peu à l'image de mon mariage que j'ai fait en 2017, il y a 6 ans, où c'était à l'image de ce que je voulais donner. Où il y avait Luc et Thibaut, hein, qui étaient là, évidemment. Mais c'est pas le petit froufrou, pas le petit... Voilà, c'est un tout bête, un cochon à la broche, tu vois.
Ça me parle.
Cochon à la broche. Le thème, c'était... cochon à la broche, magnum, en vin, bonne bière, famille, amis. J'ai pas de personne en particulier que j'aimerais voir ou pas voir. C'est plutôt vraiment tous les miens, tout ce que, surtout au moment présent en fait où je vis. C'est-à-dire que l'univers de la brasserie, je veux dire les copains de la brasserie, toute la famille et les amis qui m'entourent, qui sont là régulièrement. Ou même, c'est vrai que certains, on les voit pas souvent, mais on a toujours beaucoup de plaisir à les retrouver. Mais voilà, ça serait... un bon gros cochon avec 200 personnes, peut-être 150 personnes qui seraient là à boire des bonnes choses. Tu veux boire quelque chose, écoute, vas-y, va te servir, fais-toi plaisir. Je veux dire, faut que chacun en fait il trouve son compte et prenne du plaisir à faire ça. Je pense que c'est pas très original ce que je suis en train de dire, mais c'est hyper important.
Non, mais pour moi, tu vois, moi pour la chasse au trésor, l'idée c'était de faire payer les gens un peu plus, parce que bon, tu peux pas dire aux gens ramène des salades pendant que tu joues à une chasse au trésor. Même j'aurais pu aller pousser le bouchon jusque là. J'ai dit aux vignons, vous me filez chacun 20 balles et vous ramenez salade. Bon, ils ont tous ramené que du vin, pas de salade. On s'est retrouvé avec un sanglier sans accompagnement, mais c'était bien quand même. Mais en fait, c'est des gens sont repartis, ils m'ont dit merci, quoi. Voilà.
C'est ça.
Et je pense que la simplicité.
Voilà, simple.
Là, depuis une heure et demie qu'on parle, on parle de partage, d'amitié, de convivialité. Je trouve ça extraordinaire.
C'est un des fondements de la brasserie.
Oui.
Ah, là, ça fait pas chaleur.
Il y a les voleurs. C'est quoi ton gueuleton, Thibaut?
Alors, ouais, moi, c'est...
Je parie, t'as préparé la question à l'avance, tu t'es dit...
Non, même pas. Franchement, même pas, je te promets. Moi, c'est un peu dans l'esprit que je pense qu'on va les trois répondre un peu dans le même esprit, un peu, tu vois, mais... Ouais, moi, savoir potes, amis, famille, les gens qui, voilà, proches de moi, que j'apprécie. Donc, je ne peux pas te citer tous les noms de gens, mais ce serait amis, famille, voilà. Quelque chose.
Très grand cercle.
Voilà, très grand cercle, très grand cercle. Mais gueuleton, ce serait genre en mode. Oui, et moi, ouais, je pense pour.
Il faut le Stade de France.
Il y aurait trois.
Une table au milieu.
On veut dire, il y aurait un truc qui me ferait triper vraiment. Je pense que ce serait ça que je ferais parce que j'adore la gastronomie alsacienne. J'adore plein de choses, mais j'adore la cuisine street food de Thaïlande parce que j'y ai vécu pendant 6 mois. Et moi, j'aimerais. Ouais, là, tu me dirais, moi, je ferais venir des Thaïlandais de la mode street food comme tu vois. Ouais. Sukhum Vit,
ça c'est mon rêve,
voilà, et genre en mode une vraie street food.
L'un de mes rêves, ce serait de faire venir un vrai maître sushi. Un vrai maître sushi, shop et.
Sushi d'Hokkaido, quoi.
Un vrai
japonais.
Ça c'est mon. Ouais. Mais il y en a un à Paris, un peu trop cher, mais. Parce que, ouais. Mais moi, c'est mon rêve, ça.
Ouais, moi, mon rêve, ce serait. Voilà, ce serait le truc street food convivial avec de la bonne bière craft, du vin blanc d'Alsace, parce que, voilà, avec la cuisine thaïlandaise. Le vin blanc, c'est quand même ce qui va de mieux, mais
oui.
On pourrait mettre du rouge, il n'y a aucun souci. Je reste open. Et ouais, après, il faudrait le dessert, je m'en fous un peu, mais il faudrait du cheese, parce qu'il faudrait du fromage, parce que j'aime trop le fromage. Tu vois, et voilà.
Un cheesecake?
Non, du vrai fromage. Et voilà, tu vois, je pense que ce serait ça, le dernier gueuleton.
Voilà. À Bangkok, du master.
Voilà. Non, pas avec le climat de Bangkok.
C'est ce que je me disais. Il est courageux, garçon. Luc. Ton gueuleton.
Alors moi je me souviens de gueuleton avec JC et Thibaut très très sauvage. Je crois qu'on s'en souvient tous. On s'en souvient d'une partie. Après moi c'est exactement la même chose, hein. C'est famille, amis, bonne bouffe, convivialité, bon produit, clairement. Mais clairement moi là ce que j'aimerais c'est passer encore un repas avec mon père. Défunt père, Et clairement, c'est tout ce qu'il aime. Enfin, c'est lui qui m'a un peu éduqué là-dedans. Donc, ce serait des bons vins. Il adorait les Bourgognes. Donc, Bourgogne, blanc, Alsace, bien entendu aussi. Il adorait ça. Et la bouffe asiatique. Donc, ce serait finir avec, sur un gueuleton, grosse bouffe asiatique. Fromage, pareil. Parce que fromage, on est l'un des pays où, on a le pays où il y a plus de fromage au monde. Un énorme plateau de fromage et un petit dessert. Alors lui, c'est son petit péché mignon, c'était la crème et tout ça. Donc pour mon père, en hommage à mon père, un bon Schwarzwald. Et puis voilà.
un bon barbon 15 ans après.
Il y a un barbon court 15 ans aussi pour mon père, effectivement. Putain, ça, c'est, j'étais à Clermont-Ferrand, putain, il m'a dit « t'as pas une bouteille de rhum ?» Je fais « regarde, là, j'ai un petit barbon court 15 ans ». Et il est resté deux jours, la bouteille était pliée. Je fais ouais, bah merci papa, j'ai pas goûté une goutte quoi. Donc voilà.
C'est pareil, j'ai fait la gueule aussi parce que j'ai offert un Jean-Pierre Frick 85 et il a ouvert sa bouteille. Il fait bah tu m'offres des cadeaux pour le boire toi.
J'apprécierais de goûter quoi.
J'aurais bien aimé être avec. Bon, je me suis rattrapé depuis, mais quand même Jean-Pierre Frick 85, c'était quelque chose. Non, mais moi c'est ça qui me touche. Je vois vos yeux, je vois votre aventure et je suis content finalement d'avoir mis un peu de temps à venir parce que ça vous a permis de grandir et on a tous grandi et je pense qu'on a tous, que ce soit vigneron, brasseur, maintenant on peut mettre cidre, gnôle. Je pense qu'on a tous quelque chose à défendre dans cette région. Cette région est magnifique. Moi, je suis tellement fier de la sillonner. Alors, peut-être un peu moins en ce moment, parce que je travaille sur d'autres projets. Et puis, la chasse au trésor m'a donné des idées.
En tout cas, on a quand même fini par le faire, ce podcast.
Ouais, on a fini par le faire. Après, on en fera d'autres. Il y a des choses qui doivent se faire. Et moi, je suis fier parce que je vois votre histoire d'amitié. Et pour moi, c'est vraiment l'histoire d'amitié que je vois, que j'ai envie de retenir. Tous ces gens qui vous ont aidé, certains n'ont pas cru en vous, ce qui est tout à fait normal, qui aujourd'hui peut-être achètent vos bières, donc c'est ça qui est... Voilà, après, mais je crois que c'est la plus belle réussite.
Après, il y en a beaucoup qui ont cru en nous aussi, oui, qui nous ont soutenus dans les débuts, et encore aujourd'hui.
Mais... Et ça, c'est génial. Moi, je trouve que vous avez une richesse tous les trois qui est... Je ne sais pas si vous en rendez compte, mais tous les jours, vous levez, vous êtes content de vous lever. Quoi. Et ça,
c'est la passion.
Et ça, ouais, mais vous avez de la chance de travailler, de gagner votre vie avec votre passion. Moi, je trouve que c'est une des plus belles richesses qu'on a au monde, quoi.
Bien sûr, ça demande des sacrifices quand même.
Bien sûr.
Mais après, et on n'a pas de Porsche 911.
Mais, non, bon.
Et par contre, on a des bonnes bouteilles de vin et de spiritueux.
Et de bière.
Et la convivialité. Et alors, cette aventure du raisin et de sa papille, ça vous a plu, ce petit moment entre nous?
Très bien.
On est au top, là.
En tout cas, moi j'étais content. Merci Thibaut, merci Luc, merci JC.
Merci à toi, merci à toi.
C'était bien de vous avoir enfin, ça m'a vraiment fait plaisir. N'oubliez jamais, près de chez vous, il y a toujours un caviste, il y a toujours un brasseur, il y a toujours un vigneron, il y a certainement une belle épicerie, des restaurants qui font de la belle cuisine, mais qui ne mettent pas que de la vie dans leurs assiettes, mais aussi dans leurs verres, parce que c'est bien. Beau de faire de la cuisine du marché, mais si dans ton verre il ne se passe pas grand chose, c'est un petit peu dommage. Comme je vous le dis toujours, profitez de la vie, aimez les gens que vous aimez, dites-leur que vous les aimez. Avec un verre à la main, parfois c'est bien. Moi j'ai envie de trinquer et moi je bois toujours, même si ça ne plaît pas à tout le monde qu'on trinque à notre santé. Bah si, moi j'ai envie de trinquer à notre santé, avec modération évidemment. On n'a qu'une vie, on ne vous le dira jamais, ne prenez pas de risques. Si vous avez trop bu, demandez à votre copain de vous amener ou arrangez-vous pour que l'une ou l'autre ne roule pas. Comme ça, vous ne vous mettez pas en danger et vous pouvez en profiter. Comme je dis toujours, buvons modérément, buvons libre et bonjour Alsace. N'oubliez pas de partager et de liker cet épisode. Nous serons diffusés sur Spotify, Deezer, SoundCloud, YouTube. Si vous avez iTunes, mettez 5 étoiles et un commentaire. Enfin, le vin reste de l'alcool. Buvez modérément, partagez ce breuvage entre vous, mais surtout, ne mettez pas votre vie en danger.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.